La grande table en effet deux parties en lien avec l'actualité culturelle. Une table ronde spéciale film d'horreur et le portrait sera celui de Nicolas Darrow. Mais tout de suite, il est 12h31 et c'est l'heure du journal de la rédaction. Journal présenté par Véronique Robérod. Bonjour Véronique.
Bonjour à tous. Les Britanniques diront en automne prochain s'ils approuvent ou pas l'accord donné par EDF hier à la construction de l'EPR d'Hinkley Point, projet de centrale nucléaire estimé à 22 milliards d'euros, voté donc par le conseil d'administration d'EDF dans un climat tendu. Londres temporise, les antinucléaires ne sont pas surpris. Nous les entendrons dans le journal. Dans une longue interview que publie aujourd'hui Le Monde, le Premier ministre Manuel Valls reconnaît un échec de la justice dans le cas d'Adèle Kermiche, l'un des auteurs de l'attaque contre l'église de Saint-Étienne de Rouvray. Analyse des propos du Premier ministre dans ce journal avec Maxime Fayolle. Hillary, superstar, Hillary Clinton devient la première femme investie par un grand parti américain dans la course à la Maison-Blanche. La campagne face à Donald Trump s'annonce pour les deux candidats difficiles, c'est ce que nous dira Nadine Epstein. Et puis la corrida désinscrite du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les anti-corridas viennent d'obtenir satisfaction après 5 ans de bataille. On en parle à la fin de cette édition avec Willy Moreau. Coup d'envoi dans la douleur en France, reçu sans enthousiasme de l'autre côté de la Manche en Grande-Bretagne, alors qu'EDF a donné, malgré les critiques et les démissions surprises de son conseil d'administration, a donné son feu vert au lancement du projet de centrale nucléaire EPR à Hinkley Point, dans le sud de l'Angleterre. Le gouvernement britannique fait savoir qu'il va désormais examiner minutieusement tous les éléments de ce projet, estimé donc à 22 milliards d'euros. Thomas Schoner, bonjour.
Bonjour Véronique.
Malgré le coût des deux réacteurs nucléaires installé à Hinkley Point sera, même s'il sera en majorité supporté par EDF, les Britanniques ne s'emballent pas, loin de là. Ils annoncent ce matin qu'ils prendront donc leur décision au tout début de l'automne.
Oui, le gouvernement va considérer attentivement le projet avant de prendre sa décision. C'est ce qu'a écrit hier dans un communiqué le ministre de l'Énergie, Londres, qui reste donc très prudent. Pas d'effusion de joie après le feu vert voté hier par le conseil d'administration d'EDF. Et c'est la position de Theresa May. Depuis sa nomination le 13 juillet dernier, la première ministre n'a jamais affiché clairement son soutien au projet de centrale, contrairement à son prédécesseur David Cameron. Si le gouvernement britannique aujourd'hui temporise, c'est que les deux EPR d'Hinkley Point font débat. D'un côté, après le vote pour le Brexit, la Grande-Bretagne doit montrer qu'elle reste ouverte aux affaires. Le pays doit également fermer ses centrales à charbon d'ici 2025. Et le nucléaire est une part importante du mix énergétique. Le ministre de l'Énergie l'a rappelé hier soir. Mais d'un autre côté, ce projet, s'il aboutit, comporte aussi des risques financiers. EDF va prendre en charge les travaux et les investissements, mais l'électricité qui sera produite par la centrale sera ensuite rachetée à un prix 2 fois plus élevé que les tarifs actuels du marché, et ce pendant 35 ans. Londres s'y est engagé. D'après les calculs de la Cour des comptes britannique, cela coûtera 1 milliard par an, 35 milliards d'euros au final. La décision du gouvernement sera donc rendue au début de l'automne. En tout cas, cette annonce hier soir a pris de court EDF, qui s'attendait à signer très rapidement. Les plans les plus optimistes parlaient même d'une poignée de main pour aujourd'hui.
Une prudence parfaitement comprise par les anti-nucléaires français qui parlent d'un projet suicide. Suicidaire pour EDF à Flamanville ou en Finlande. Les chantiers en cours de construction de PR connaissent d'énormes difficultés, d'où, explique Charlotte Mijon du réseau Sortir du nucléaire, la prudence bien compréhensible des Britanniques.
Il est indéniable que les fiascos des chantiers de d'Olkiluoto et de Flamanville jouent un rôle. C'est certain que construire un tel réacteur qui, avant même d'être entré en fonctionnement, est déjà abîmé et déjà entaché de malfaçon, c'est quelque chose qui pose question. Donc c'est tout à fait normal et c'est même plutôt sain que la Grande-Bretagne temporise. Ce qui est certain, c'est que ce réacteur, s'il se construit un jour, on sait que c'est un chantier qui va mettre bien plus de 10 ans, et pendant bien plus de 10 ans, c'est une électricité dont on ne verra pas la couleur. Et pour des sommes qui vont être investies, probablement en pure perte, alors que dans le même temps, si on lançait un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables, on pourrait avoir bien plus rapidement une électricité disponible qui deviendrait très vite bon marché. La Grande-Bretagne aurait vraiment tout intérêt à miser sur les énergies renouvelables plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier avec un réacteur qui est extrêmement coûteux, qui est dangereux et qui est un fiasco total.
Lors de son conseil d'administration hier, l'électricien EDF a fait savoir qu'il pensait aussi pouvoir prolonger de 40 à 50 ans au moins la vie de 32 de ses 58 réacteurs. La vieille centrale de Fessenheim, dont la fermeture est programmée en 2018 au moment de la mise en service de l'EPR de Flamanville, Fessenheim, n'est pas concernée. Les trimestres se suivent et ne se ressemblent pas malheureusement pour le gouvernement et l'économie française. Après une hausse de 0,7% au premier trimestre, la croissance connaît au second trimestre un coup d'arrêt selon les estimations de l'INSEE. Un coup d'arrêt inattendu, Jean-Marc Chardon.
Oui, un véritable coup d'arrêt, croissance nulle, 0%. Ce n'est pas ce qui était attendu quand on sait que l'INSEE entrevoyait au printemps un scénario de croissance de 0,4%. Alors que s'est-il passé? Déjà, l'investissement des entreprises a décliné alors que l'INSEE le prévoyait en progression. Le commerce extérieur, qui aurait dû s'améliorer, franchement a déçu. Les exportations ont même baissé et les consommateurs ont ménagé leur portefeuille. Ceux qui comptaient sur un effet euro, eh bien, ils en sont pour leurs frais. Alors pourquoi ce mouvement de recul? On l'a peu signalé, mais l'impact des grèves, minoritaire mais à répétition, surtout dans les transports, avec rupture même partielle d'approvisionnement, ça a joué sur l'activité économique. Effet immédiat sur fond de manifestations sociales, l'attentisme des directions d'entreprises, dont beaucoup ont suspendu ou différé leur plan d'embauche. Les derniers chiffres de Pôle emploi là-dessus sont significatifs. Maintenant, la question est de savoir si cette croissance zéro n'est qu'un trou d'air et si la dynamique de la reprise va reprendre, compte tenu de l'effet Brexit difficilement mesurable, plus encore de celui des attentats dont on sait que le tourisme en subit déjà les conséquences. Et au-delà est posée la question de savoir si le gouvernement pourra tenir sa prévision de croissance à 1,6% cette année. Eh bien maintenant, ça paraît assez difficile.
Merci Jean-Marc. Alors que démarre le grand chassé-croisé de l'été, la grève des hôtesses et stewards d'Air France va entraîner ce vendredi l'annulation de 139 vols longs courriers au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La grève est prévue pour durer jusqu'au 2 août. Trois personnes sont ce matin en garde à vue dans l'enquête sur le drame de Saint-Étienne-de-Rouvray. Parmi elles, un demandeur d'asile syrien. Il a été interpellé dans un centre d'accueil de l'Allier, indiquent nos confrères du journal La Montagne. Dans les colonnes du journal Le Monde, cette fois, Manuel Valls revient longuement sur les attentats commis en France et les réponses à apporter au terrorisme qui nous menace. Maxime Fayolle, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lu cette interview du Premier ministre, Manuel Valls, qui reconnaît pour la première fois un échec dans le suivi d'un des deux tueurs de Saint-Étienne-du-Rouvray. Échec non pas du gouvernement, mais de la justice.
Et oui, ce mot « échec », il n'avait jamais été utilisé après aucun attentat depuis janvier 2015 en France. Un échec sur la gestion du cas Adel Karmich, libéré sous contrôle judiciaire après 10 mois seulement de détention provisoire. Pour autant, pas question pour Manuel Valls de rendre les juges responsables de cet attentat. Ce serait, selon lui, tomber dans la facilité. Alors, vous l'avez dit, c'est un échec qui ne le concerne pas directement, car Manuel Valls estime que son gouvernement utilise les bonnes techniques pour lutter contre le terrorisme. Une opération qui prendra du temps. Les Français doivent rejeter les solutions démagogiques qui font croire que nous pouvons en terminer en quelques mois.
Une attaque très directe envers la droite et Nicolas Sarkozy en particulier.
Et oui, un Nicolas Sarkozy qui perd ses nerfs, affirme Manuel Valls. Être lucide face à la menace, ce n'est pas basculer dans le populisme. Droite et gauche doivent faire front commun face à un ennemi, Daesh, qu'il faut combattre à l'extérieur de nos frontières, mais aussi à l'intérieur. Manuel Valls donne d'ailleurs des chiffres pour prouver l'efficacité de son action. 16 attentats empêchés en 3 ans, 80 imams ou prêcheurs de haine expulsés et plus de 800 frappes aériennes en Syrie. Un Premier ministre qui se positionne en rassembleur. Il faut cesser les accusations nauséabondes sur un mensonge d'État, dit-il en évoquant l'attentat de Nice. Et surtout, il faut sortir du réflexe du bouc émissaire. Les musulmans ne doivent pas être pointés du doigt. Mais le Premier ministre réfléchit toutefois à une remise à plat de l'islam de France, une formation des imams en France et interdiction temporaire des financements étrangers pour la construction des mosquées.
Merci Maxime. Chez les Républicains, le député Éric Ciotti dénonce un indécent exercice d'autosatisfaction et des demi-mesures de la part du Premier ministre. Le vice-président du Front National, Florian Philippot, renvoie quant à lui dos à dos gouvernement et opposition. Il estime qu'il n'y a rien de nouveau dans les propositions de Manuel Valls et met en doute la crédibilité de Nicolas Sarkozy. Absolument inédit, historique, à 68 ans, Hillary Clinton est entrée dans l'histoire américaine hier à Philadelphie lors de la convention démocrate en devenant la première femme investie par un grand parti dans la course à la Maison-Blanche, elle-même femme d'un ex-président américain. Hillary Clinton s'est posée en garante d'une Amérique optimiste, ouverte face au populiste républicain Donald Trump, 70 ans. Clinton-Trump affiche donc de cette élection présidentielle américaine prévue en novembre prochain. Nadine Hochtang, bonjour.
Bonjour.
Avec un point commun, ils vont devoir tous les deux faire face à de sérieux problèmes d'impopularité.
La course va donc durer maintenant 73 jours pour la démocrate Clinton et le républicain Trump qui tous deux, bien que victorieux aux primaires, ne font pas l'unanimité dans leur propre rang malgré l'unité affichée à Philadelphie et le défilé à la tribune des ténors démocrates, des célébrités, Meryl Streep, Katy Perry, des Américains ordinaires, la candidate à la Maison Blanche souffre d'une image de candidate trop establishment, d'un bourreau de travail absorbé constamment par sa carrière carrière et de courir pour les milieux d'affaires. Mais ceux qui ne sont pas séduits par l'ex-première dame vont-ils avoir d'autre choix que de voter pour elle? En face, Donald Trump divise le camp républicain, comme l'a montré la convention de Cleveland, où de nombreuses personnalités et entreprises étaient absentes. Certains républicains se disent dégoûtés par leur porte-drapeau, jugés incontrôlables, populistes, dangereux, incompétents. Au moment du vote, que feront-ils?
Alors, il va falloir aussi compter sur deux outsiders amenés dans cette campagne à jouer un rôle non négligeable.
La candidate verte Jill Stein et le libertarien Gary Johnson, ils sont actuellement marginalisés dans les sondages, n'atteignant pas la barre des 5% pour la première et moins de 10% pour le second. Mais dans certains États, ils pourront largement bénéficier des voix démocrates qui rejettent Clinton et des républicains hostiles à Trump, pouvant ainsi faire basculer la victoire dans un État pivot, un swing state, et donc être décisif sur le résultat final. En effet, les prétendants à la Maison Blanche ne mèneront pas campagne dans tout le pays pendant les deux mois qui viennent. En réalité, seulement 10 États sont décisifs et très disputés, car ils peuvent échapper autant aux démocrates qu'aux républicains pour des raisons socio-économiques, sociétales, poids de la religion, des valeurs conservatrices ou progressistes. Enfin, une des priorités de tous les candidats sera de chercher de mobiliser les électeurs, de convaincre les Américaines et les Américains de ne pas bouder le scrutin, aux États-Unis. Globalement, la moitié des personnes en âge de voter s'abstiennent.
Merci Nadine Epstein. Un avocat sur place parle de chaos total. Ces dernières heures, l'Indonésie a procédé à l'exécution précipitée, anticipée de 4 condamnés à mort pour trafic de drogue. 10 autres condamnés qui devaient être fusillés ont obtenu un sursis épargné à la dernière minute, en tout cas pour l'instant, des étrangers principalement. Ne figure pas parmi eux le français Serge Al-Atlaoui, condamné pour trafic de drogue, mais dont la peine a été suspendue. Nous reviendrons sur cette situation en Indonésie dans notre journal de 18h. Le Conseil de sécurité des Nations Unies renouvelle le mandat de la MINUSCA en Centrafrique depuis les élections présidentielles et législatives réussies du printemps dernier. L'un des souhaits de l'ONU est d'accompagner à la consolidation de l'autorité de l'État, à l'aide notamment d'un programme de désarmement de grande envergure. Or, depuis plus d'un mois, la Centrafrique connaît une recrudescence des violences et une vraie crise humanitaire qui suscite l'inquiétude des ONG internationales. La correspondance à Bangui de Saber Jendawi de Radio France Internationale.
La nuance paraît infime, mais elle interroge les ONG internationales. La protection des civils reste une tâche prioritaire urgente, mais elle n'est plus la priorité effective. Traduction, protéger les civils n'est plus la mission principale pour l'ONU, ici en Centrafrique, selon Olivier Bourgoin, le coordinateur des ONG internationales.
Depuis plusieurs semaines, on assiste à une réduction de l'espace humanitaire en Centrafrique. Donc on se demande, alors que le mandat officiellement était celui de la protection des populations civiles, comment ça va être mis en œuvre maintenant que ce n'est plus la protection des populations civiles comme objectif prioritaire, mais la réduction de la violence armée. Sachant que la violence en Centrafrique, ce n'est pas seulement les groupes armés, c'est des violences intercommunautaires, c'est des violences transfrontalières, c'est plein de choses qui génèrent des violations de droits humains sur les populations civiles. Donc concrètement, c'est une interrogation fondamentale sur comment ça va être mis en œuvre et d'être un peu dubitatif. Ça fait 2 ans qu'elle existe, cette mission, et concrètement, elle n'a pas forcément, à part eu un impact sur les élections, eu un impact net et définitif en termes de protection justement des populations.
Et oui, la crise en Centrafrique n'est pas finie. Un tiers de la population est toujours déplacée. Depuis ce printemps, la recrudescence des violences a fait plus de 200 victimes civiles, dont 3 humanitaires.
Normalement, l'on se bat pour être inscrit un jour au patrimoine immatériel de France qui permet une inscription future au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rarement pour en sortir, sauf quand les associations ont des intérêts bien divergents. En 2011, des associations françaises pro-corrida avaient obtenu l'inscription de la corrida à l'inventaire, donc du patrimoine immatériel de France. Depuis 5 ans, les anti-corrida se bagarraient contre cette inscription et ils viennent d'obtenir, Willy Moreau, satisfaction.
Ouais, c'est un coup de grâce porté au pro-corrida par le Conseil d'État. Désormais, impossible de contester la radiation de cette pratique au patrimoine immatériel de France. L'arrêt a surpris les associations de tauromachie 5 ans à peine après son intégration dans la liste. Revirement peu courant qui peut s'apparenter à un choix politique. Peu après son inscription, le ministère de la Culture a fait disparaître la corrida de son site. Les juridictions administratives ont conclu qu'il s'agissait d'une radiation implicite. La corrida ne va pas mourir pour autant, même si elle est punie de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour cruauté infligée envers les animaux. La loi prévoit une exception pour les régions du sud de la France en raison d'une tradition locale ininterrompue. Pour Roger Lahana, vice-président du comité radicalement anti-corrida, le seul moyen de l'interdire, c'est son abolition pure et simple.
Et ça veut dire faire changer l'alinéa qui crée une exception de peine. Il y a actuellement 7 propositions de loi qui ont été déposées par différents députés. Et la difficulté, c'est que tant que cette PPL n'est pas mise à l'ordre du jour, ça ne sert à rien. Les seuls qui sont maîtres de l'agenda de ce qui est mis à l'ordre du jour, c'est le gouvernement, avec en tête un Premier ministre, Procorida. Il a utilisé comme argument le fait que c'est dans sa culture puisqu'il est d'une famille catalane, ce qui est un argument tout à fait ironique, puisque en Catalogne espagnole, justement, la corrida a été abolie depuis 2012.
Et les associations anti-corrida espèrent d'ailleurs que le gouvernement prendra exemple sur l'Espagne, qui en 5 ans a réduit de moitié le nombre de corridas, passant de 2000 à 1000 par an.
Merci. Le temps cet après-midi, pas de soleil au nord, plein de soleil au sud. Les vacanciers qui se lancent sur les routes verront la différence au fur et à mesure de leur avancée dans les bouchons vers le sud de la France. Grand écart dans les températures, 18 à Brest cet après-midi, 33 à Nîmes. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal.